rencontre avec un élu, Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle et délégué général du Club de l'accession à la propriété.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par la société Primo Villa, l'accession équitable au service des parcours résidentiels des habitants.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, président de l'ANRU. Bienvenue, Olivier.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés. Vous présidez maintenant l'ANRU bientôt depuis 2 ans. Il y a eu en effet un certain nombre d'évolutions depuis votre arrivée, des attentes avant. Quel bilan vous tirez déjà de vos 2 années de mandat ?
Je crois que pour commencer, je dirais que c'est passionnant. Le président de la République m'a permis de présider cette belle agence sur un sujet que je crois connaître un petit peu, qui est le renouvellement urbain, parce que à Clichy, à Montfermeil, on a été fort heureusement touché par un premier programme de renouvellement urbain extrêmement ambitieux, extrêmement important, qui a modifié en profondeur un quartier. Voir ce que d'autres font, essayer de les aider avec tout le personnel de cette agence nationale du renouvellement urbain, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. C'est pas facile tous les jours parce que, évidemment, sur la question des quartiers populaires, il y a une attente très forte, une attente d'abord des habitants et puis une attente des élus qui est légitime. Et c'est vrai qu'au moment de ma nomination par le président de la République en novembre, ça fait pas tout à fait 2 ans encore, on sentait une vraie impatience de la part des élus qui avaient l'impression qu'on leur demandait trop de choses, trop d'études, trop de complexité, qu'on leur reprochait de ne pas être assez ambitieux, alors que leur position à elles était d'être extrêmement ambitieux. Donc il a fallu rassurer, réfléchir à de nouvelles méthodes, ce qu'on a fait avec les élus, avec les équipes de l'ANRU, avec Julien Denormandie, le ministre du Logement, ministre de la Ville, les partenaires de l'ANRU. Et c'est ce qu'on a fait depuis plus d'un an maintenant, et je crois avec plutôt de succès.
En fait, il y a eu, on s'en souvient, un rapport présenté par Borloo qui a un peu secoué finalement le cocotier, mais qui correspondait à peu près à 6 mois près à votre arrivée. Et puis depuis, on a le sentiment que l'agence a été relancée. Est-ce qu'il fallait ce coup de gueule pour que l'agence se remette sur les rails par rapport aux élus dont vous venez de citer en disant qu'ils étaient en attente, il y avait peut-être, le stylo s'était peut-être un peu levé pendant quelques temps ?
Je crois qu'on n'a pas su bien enchaîner la fin du premier programme de renouvellement urbain et le début du deuxième. On a le gouvernement précédent a souhaité à juste titre annoncer une nouvelle liste de quartiers en renouvellement urbain, souvent des quartiers qui étaient déjà dans le premier programme. Mais en même temps, financièrement, on ne savait pas trop où on allait. Il y avait encore beaucoup de choses à faire dans le premier, il n'est toujours pas terminé, donc encore de l'argent à dépenser. Et puis en même temps, une volonté légitime des élus locaux, des habitants, de lancer ces nouveaux programmes qui avaient été annoncés. Et donc il y a eu un espèce de choc qu'on n'a pas bien amorti entre le passage du premier programme au deuxième programme, et puis pour ne pas avoir à dépenser de l'argent qu'on n'avait pas trop vite, eh bien, on a probablement inventé des dispositifs, un truc qui s'appelait la réunion technique paritaire, la RTP, qui était une espèce de boîte noire dans laquelle le projet des villes était présenté en l'absence des villes. On ne comprenait pas bien par qui nos projets étaient étudiés. Et je crois qu'on a rajouté de la transparence. On a beaucoup échangé avec les élus. Moi, j'ai animé plusieurs réunions d'élus pour voir avec eux ce qui leur semblait être bloquant, ce qui leur semblait être incompréhensible, même parfois dans le fonctionnement de l'ANRU, pour trouver un nouveau mode de fonctionnement. Puis on a été aussi plus loin, on a réfléchi à la gouvernance. Les décrets viennent de paraître. L'ANRU va être réformé aussi dans sa gouvernance, son conseil d'administration, qui sera plus à parité État-financeur, mais à 3/3. Et puis, il y a la décision déterminante, qui est le doublement des fonds de l'ANRU. Faire un programme de renouvellement urbain deuxième génération avec 5 milliards ou avec 10 milliards, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, la décision a été prise il y a plus d'un an maintenant de passer à 10 milliards avec une augmentation pour Action Logement qui passe à 7 milliards, l'Union Sociale de l'Habitat qui monte à 2 et l'État qui revient enfin, parce que c'est quand même un péché extrêmement important que l'État soit un jour sorti de l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain.
C'est une des inquiétudes et des lenteurs qui avaient fait que les élus étaient en attente. Et puis, entre-temps, il y a aussi une élection présidentielle. Il y a eu beaucoup de villes à qui on a promis. C'est vrai qu'il y a eu...
François Hollande avait annoncé le retour de l'État à 1 milliard d'euros, mais pas au-delà. Et puis, c'était en toute fin de quinquennat. Il fallait que cet argent soit annoncé, inscrit dans la loi de finances, qui est le cas aujourd'hui. Et puis ensuite, évidemment, l'instruction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pu instruire près de la moitié des programmes. Instruire avec une enveloppe à 10 ou une enveloppe à 5, c'est pas la même chose. Et évidemment, ça a donné une capacité à instruire mieux, à avoir toute l'ambition nécessaire à ces projets. Et puis l'autre difficulté, en tout cas au niveau de la métropole parisienne, c'est que la réflexion sur le renouvellement urbain se fait dans une nouvelle forme d'intercommunalité dont on n'avait pas forcément l'habitude. Quand je vais voir la métropole européenne de Lille ou quand je vais voir la métropole de Lyon, les habitudes de construction intercommunale, métropolitaine, ne sont pas celles qu'on connaît. Malheureusement, je dirais, en région parisienne, les territoires sont de nouveaux objets qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour certains, et confier le renouvellement urbain, la politique de la ville à ces territoires trop neufs, ça n'a pas été non plus...
Oui, c'est le contre-coup de la loi NOTRe, de cette mise en place aussi parallèlement, de
absolument.
Cette nouvelle gouvernance, qu'on voit de temps en temps, puisque j'ai le plaisir d'animer le Club des maires de la rénovation urbaine, plutôt sur les agglos, où d'ailleurs, entre la ville hypercentre et les agglos plus rurales, l'intérêt de la rénovation urbaine, de temps en temps, pose problème à certains. Et donc aujourd'hui...
Alors qu'il n'y a pas de concurrence, en réalité.
Il n'y a aucune concurrence, il n'y a qu'une complémentarité. Il faudrait trouver des quartiers, bien évidemment, pour tous. Vous avez dit que vous avez allégé, en fait, des procédures pour essayer d'aller un peu plus vite et plus rapidement. Je me souviens d'ailleurs de votre prédécesseur Gérard Ramel.
Donner aussi des autorisations de démarrage anticipées. On n'est pas obligé aujourd'hui, en tout cas dans la nouvelle méthode, d'avoir tout finalisé, tout savoir pour passer en comité d'engagement. Moi, c'est ce que je disais. J'aime cette expression qui dit le mieux est l'ennemi du bien. À un moment, si je reprends le premier programme de renouvellement urbain à Clichy, on avait prévu de faire 3 écoles. On avait fait un magnifique plan guide en 2004 avec 3 écoles positionnées à des endroits dans Clichy-sous-Bois. Aujourd'hui, aucune des 3 écoles sont sur le plan guide initial de 2004. Mais les 3 écoles sont là. Le plus important, c'était de savoir qu'on avait besoin de financer dans le cadre de la rénovation urbaine 3 écoles. Après, qu'elles soient ici ou là, on sait qu'un projet aussi complexe qu'un projet de renouvellement urbain fait qu'il y a une histoire du projet, des modifications, du foncier qui se libère plus vite à un endroit et le projet, il évolue. Et c'est ça qu'il fallait donner. C'était cette souplesse et je crois qu'avec toutes les équipes de l'ANRU, parce que ce qui a été difficile dans cette période, c'est aussi...
La mobilisation interne par rapport à ces attentes.
Je suis certain qu'à aucun moment, les équipes de l'ANRU ont baissé le pied et ont cessé de travailler. Et c'est vrai que ça a été difficile à vivre pour eux, parce qu'ils étaient un peu montrés comme un mauvais objet. Et moi, comme nouveau président, je n'ai cessé de les soutenir, parce que ça pouvait être aussi extrêmement démobilisateur. C'est pour ça que je n'ai pas plaidé pour jeter le bébé et l'eau du bain, mais bien partir des bases, des fondamentaux que sont ceux de l'ANRU, des fondamentaux solides, pour évoluer, progresser, mais surtout... pas tout jeter par la fenêtre, parce que je pense que ça aurait été une erreur. Et là, on aurait à nouveau perdu beaucoup de temps.
Et puis les moyens sont arrivés. Donc c'est évident que la capacité à dire oui quand on a 5 milliards ou 10 milliards n'était pas tout à fait la même
absolument.
Par rapport au projet dont vous parlez. Aujourd'hui, quels sont les grands chantiers ou la façon dont vous voyez cet accompagnement qui va durer? Parce que de toute façon, même dans les programmes qui sont aujourd'hui autorisés, il va falloir 2 à 15 ans pour les mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des trous encore dans la raquette sur le territoire national? Est-ce qu'il y a un très très bel équilibre avec ces 200 quartiers pris?
Bien évidemment, aujourd'hui, si on a passé la moitié, c'est qu'il y a des programmes où la réflexion était déjà mûre. Il y a d'autres territoires qui restent plus complexes, sur lesquels il faut qu'on travaille plus vite. Il faut aussi que les porteurs de projets, les territoires, les métropoles travaillent plus vite. Et puis, il faut qu'on ait en permanence l'intérêt des habitants de ces quartiers. Parce que ces projets qui sont longs, les habitants qui habitent là, ils ont besoin de voir des évolutions chaque jour de leur quotidien. C'est pour ça que moi, je plaide, par exemple, sur la question de l'école. L'ANRU, c'est aussi, et peut-être surtout, les équipements publics. Comme le dit Julien de Normandie, c'est pas seulement se loger, c'est bien comment on habite dans son quartier. Donc, quelle école, quel équipement culturel, quel équipement sportif, quelle police, quelle justice, et aussi quel logement, quel transport. Enfin, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte en même temps. Et je crois, avec les partenaires de l'ANRU, que sont Action Logement, la Caisse des dépôts, qu'on est maintenant tous d'accord sur cette vision, le logement bien sûr, mais comme un élément et pas le seul élément de la rénovation urbaine.
La semaine dernière, j'avais le plaisir d'interviewer ici Nadia Haye, parlementaire des Yvelines, qui propose la présence de parlementaires au sein du conseil d'administration de l'ANRU. Qu'en pensez-vous ?
députés. Je crois que c'est prévu dans le nouveau conseil d'administration. Donc, j'ai aucun souci, au contraire, à ce qu'il y ait des parlementaires dans le tour de table de l'ANRU. Il y a des élus, il y a les financeurs, il y a l'État. Le rôle du conseil d'administration est très important. Il valide les comités d'engagement, il valide le budget de cette agence, il valide les démarches. Tous ceux qui ont de l'appétence à travailler sur les questions de la politique de la ville, du renouvellement urbain, si l'État l'a prévu dans ses décrets, ce qu'il faudrait encore vérifier, sont les bienvenus dans notre conseil d'administration.
Je crois qu'ils sont encore en discussion, en suggestion de la part des parlementaires à l'Assemblée pour voir si c'est dans le décret ou s'ils viennent inviter dans un vecteur législatif.
En tout cas, ils sont toujours présents dans les déplacements que je fais pour signer les conventions en rue, les députés des circonscriptions, et ils sont très attentifs à ce que le renouvellement urbain apporte aux habitants de leur quartier, et c'est normal.
Je crois qu'en effet, à un moment où il y a le non-cumul des mandats, où il y a peut-être un écart entre les élus nationaux et les élus locaux, que sur un organisme comme le vôtre, les élus nationaux comprennent mieux et soient au quotidien finalement de l'accompagnement de la rénovation urbaine et de la programmation aussi financière qu'il faudra accompagner dans les années qui viennent, puisqu'à chaque PLF, on peut remettre ou revoir, bien évidemment, ces sujets. Ça nous semble très important. Quels sont vos espoirs aujourd'hui ? Vous êtes, donc, depuis un an et demi, novembre, président de l'ANRU. Est-ce que vous avez bien expliqué que ce n'est pas simplement de faire de l'urbain, de la construction, mais qu'il faut penser aux écoles, à la police ? Comment peuvent bien fonctionner ces équilibres ? Sachant que parallèlement, mais ça vient compléter votre dispositif, l'État a lancé son action cœur de ville, parce qu'on a peut-être oublié certaines villes en province, mais il y a des cœurs de ville dans lesquels il y a aussi des villes qui sont et ANRU et cœur de ville. Comment rééquilibrer un peu tous les quartiers dans les années à venir ?
D'abord, je crois qu'il n'y a pas de règle unique. Faire un programme de renouvellement urbain à Nîmes, à Clichy-sous-Bois, à Grigny ou à Mulhouse, c'est forcément des programmes qui sont différents, des réalités différentes, parfois de centralité, parfois de périphérie. Il n'y a pas de règle unique, mais je pense qu'il y a des points communs qui sont d'abord les habitants de ces quartiers, qui sont extrêmement impatients, qu'on a sollicité depuis plusieurs années maintenant, les conseils citoyens. On a été extrêmement motivés sur les questions de démocratie participative, mais en même temps, ça a une impatience plus grande. Quand on associe les habitants plus tôt, eh bien, ils ont envie de voir, ils ont envie de comprendre comment leur ville va changer, comment leur vie va changer, comment leurs enfants vont mieux vivre dans ce quartier. C'est pour ça que je suis favorable aux cités éducatives que le gouvernement met en place, qui touchera beaucoup de quartiers en politique de la ville, en renouvellement urbain, pardon. Donc, je crois vraiment qu'il faut une prise en compte totale de la question. Moi, j'ai jamais été de ceux qui opposaient l'urbain et l'humain, bien évidemment. C'est vraiment un programme complet qui doit se voir le jour dans des quartiers. Et il faut qu'on gère mieux la question du temps. Parce qu'aujourd'hui, un programme de renouvellement urbain reste un programme qui prend trop de temps à voir le jour pour les habitants qui habitent là.
Merci de ce mot de la conclusion. Mais en effet, il ne faut pas opposer ni urbain ni humain. Et il faut renforcer la démocratie participative pour l'acceptabilité de la gestion de ce temps. Merci Olivier Klein.
Merci.
Très bonne
à
journée à tous.
Rencontre avec un élu. Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle et délégué général du Club de l'Accession à la Propriété.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par la société Primo Villa, l'accession équitable au service des parcours résidentiels des habitants.